Nous passons maintenant à la rubrique Est-ce que vous avez vu? Donc, est-ce que vous avez vu? C'est des recommandations, des coups de cœur, bref, des œuvres, quel que soit le format que vous voulez proposer, enfin inciter les gens à aller voir.
Est-ce qu'on peut faire la vanne? Est-ce que vous avez vu mon cul ou mon
Bah,
poil ou...
à la rigueur, vu que c'est le premier épisode, tu l'as fait,
Non mais parce que tu
carrément.
couperas, je pensais que j'attendais
Non, mais ce sera le jingle, de toute
On
façon.
verra, on verra.
Je crois que c'est le jingle, c'est sur cette thématique, je crois.
Alors, je me lance.
Comment fait-on? Comment fait-on pour régler le qu'est-ce que t'as vu?
Alors, moi, je voudrais vous parler d'un film de Paul Verhoeven.
Je connais pas ces personnes.
Je connais pas? C'est
Super
dommage.
réalisateur.
C'est dommage parce que, justement, dans ma rubrique, j'explique qu'à l'occasion de la rétrospective faite par le Cinéma des Fauvettes à Paris sur Paul Verhoeven, je suis allé
Ah.
avec Sartman, hein, donc
Oui, j'étais.
tu es témoin.
Ah, le film avec les nichons, là, c'est ça?
Non, l'autre.
Ah
Nous
merde.
sommes allés voir Starship
Showgirls.
Non,
Ah bon.
moi j'étais obnubilé par Showgirls, je
Non,
me rappelle
mais.
absolument pas de Starship Troopers.
Je veux parler de Starship Troopers, un film de 1997 avec Casper Van Dien, Denise Richards et Neil Patrick Harris, qu'on aime bien.
Dina Meyer.
Un film qu'il a fait sans
N'est-ce
argent,
pas
je crois.
Et ses
Voilà.
boobs.
Voilà, et non, je voulais en parler parce que j'ai redécouvert le truc, parce que j'avais oublié à quel point il y avait un ton improbable entre satire politique, film de guerre futuriste et space opéra. C'est une charge ultra virulente contre le militarisme et le patriotisme, et pourtant, dans le même temps, quand tu regardes le film, t'as envie de t'engager. Mais c'est.
Ah non, t'as
J'exagère.
pas du tout envie de t'engager, pardon.
J'exagère, bien évidemment, parce qu'il y a un quatrième degré ultra efficace qui est
Quatrième
limite.
degré.
Ben oui, qui est limite très dérangeant parce qu'il y a comme un espèce de nazisme latent
Ben oui, en fait,
sous cette couche d'héroïsme. Non mais voilà, c'est ça. C'est en ça que le film est perturbant.
c'est un film de propagande nazie.
Et je... Mais non, tu fais des raccourcis.
Non mais si, mais dans une certaine manière, si. Et c'est ça qui est puissant.
Justement, tu te
Oui,
rends
mais tu peux
compte.
pas le réduire à cette simple
Tu te
formule.
rends
Je
compte à la
le
fin
redis pas, je
que...
le redis pas. C'est une des choses que véhicule le film. Et c'est ça qui est puissant. C'est qu'il véhicule exactement ce que tu dis.
En fait, tu te rends
Merci.
compte à la fin du film que t'es du côté des nazis.
Non mais voilà, c'est ça, c'est
Et
ça.
c'est aussi
C'est en
ce
fait,
c'est plein de cynisme, c'est aussi tout l'inverse que le film veut.
Verhoeven, son cinéma est hyper cynique, hyper triste,
C'est
hyper
la guerre en
noir.
Irak 6 ans avant.
Exactement. Non, mais il y a un
Ouais.
rapprochement qu'on peut
Parce
faire
que les envahisseurs,
avec l'actualité.
en plus d'être
Tu peux
futuristes
faire
et
le pitch
visionnaires,
peut-être,
quoi.
mais le pitch c'est des humains qui sont. La Terre est attaquée par des. T'as
Non,
préparé un
j'avais
petit
pas
pitch?
prévu le pitch. Non, non.
C'est
Je pensais
toi qui nous
que.
as fait un petit pitch, tu veux préparer un
J'ai
petit
préparé
pitch?
un petit pitch de Starship Troopers, parce que c'est les humains donc sont. Envahissent des planètes extraterrestres.
Colonise, hein.
Ils colonisent, ouais. Et donc les extraterrestres, c'est des arachnides, mais l'histoire, c'est ça. On est du point de vue des envahisseurs.
Tout à fait.
Une fois, ils se sont pris un météorite, c'est ça l'histoire. Ils se prennent un météorite.
Et oui, qui est pris comme une
Qui est
agression
pris comme une
intolérable.
agression. Ils se rendent compte pendant le film qu'en fait, c'est du caca de dinosaures.
Non, mais des insectes. Il chie une espèce de boule de feu qui
Ouais, en fait, c'est un
fulmine.
accident, c'est pas du tout une déclaration
Mais
de
non,
guerre
parce
de la
qu'en
part
fait,
des
c'est lié à
arachnides.
leur. Quelque part, c'est indirectement lié à leur invasion à eux. Ils ont créé un
Enfin,
peu le
c'est.
machin.
Faut voir aussi tout ce qui est l'allégorie,
Ils
tout
prennent un
ça.
prétexte
C'est
pour
la guerre du
attaquer.
Golfe,
Tout
c'est
à
la
fait.
Palestine, c'est tout ça. Enfin, ils parlent aussi de tout ça, de colons
C'est le
qui
11
viennent envahir,
septembre.
le rebelle,
11
voilà.
septembre avant.
Qui est le rebelle, qui est le
Qui est
bon, le gentil,
l'agresseur, qui est
méchant,
l'agressé.
Et
voilà.
puis
Et il n'y a pas de
les.
réponse à ces questions,
Tout
comme
à fait,
souvent.
exactement.
Très bon film, excellent film.
Voilà, donc.
Super musique de Basil Poledoris.
Voilà, une
Oui,
musique
tout à
incroyable,
fait.
des effets spéciaux dingues.
Et il y a
Carrément.
Barney Stinson, merde.
Voilà, donc Neil Patrick
Voilà.
Harris,
Denise
bien connu
Richards.
sur le.
Un énorme film. Et puis, voilà, c'est ça aussi le tour de force, c'est que c'est presque une parodie parfois, c'est presque un film de guerre, souvent, film de propagande, c'est aussi un excellent film de SF, enfin c'est un film qui mélange plein de choses à la fois, avec plein de sincérité, enfin c'est formidable, c'est un
Ouais,
tour de
ouais.
force assez fou.
Tout à fait. Et les scènes d'action sont encore tout à fait
Et oui!
regardables avec plaisir. Enfin, les scènes de baston
C'est gore
sont
comme il
assez sympas.
faut, il y avait de l'action. C'est pas sur ce film-là où il y avait pris des vrais gens à qui il manquait des membres pour jouer sur ce film-là. Hein.
Si, si, si.
Des gens qui étaient amputés, des vrais gens qui étaient amputés pour les scènes où il y a des cadavres amputés partout. Ils voulaient des vraies personnes.
D'accord, non, ça ne transparaît pas beaucoup, je trouve, mais
Je sais pas, ça va beaucoup trop loin.
peut-être. Non, mais si, le gars qui
Cannibal
lui dit,
Holocaust.
le gars qui dit justement Harico,
l'armée,
vous êtes l'homme que je suis, et il est voilà, effectivement un petit peu
qui meurt, qui a deux vies,
un petit peu réduit.
Il meurt au milieu du film. Il
Et est-ce que vous avez vu les suites de Starship Troopers?
Non, par contre, c'est interdit, il faut pas les voir.
D'accord, il faut pas les voir.
La 2 est à chier, et la 3, il y a, le retour du scénariste du 1, je crois.
Ouais, et puis il y a le retour de Casper Van Dien, le mec le plus fade au monde, qui a du coup été fade pour une bonne raison dans le premier film. C'est que je pense que Verhoeven, il voulait des personnages lisses.
Oui.
Les poupées Ken et Barbie, en fait, c'est pour que Denise Richards avec Casper Van Dien.
Exactement.
Vous des clichés.
Et ça perd tout son sens dans le troisième, mais bon.
Ok, un autre avez-vous déjà vu? Non, pardon. Un autre avez-vous vu?
À qui le tour?
Mathieu.
Alors moi, je voulais vous parler.
Il joue sur le Joker, je crois.
Je voulais vous parler de Walking Dead.
Oh là là.
Ah. Alors, je sais pas si vous avez vu cette série, c'est Walking Dead. Bon, tout le monde l'a déjà vu en fait, donc c'est un peu mieux.
Non, mais ce qui est étonnant, enfin, moi je suis curieux.
Alors j'ai retourné ma veste, voilà.
Je suis curieux parce que.
Tais-toi, laisse Jean-Marc parler s'il te plaît.
Ah bon, c'est pas moi qui présente
la fabrique. Non, je te présente, le truc si tu veux, parce que je suis assez curieux effectivement de savoir ce que tu vas dire, ce que tu vas dire dans la mesure où tu chies sur la série dès le début.
Depuis 15 ans, il chie sur la série, hein,
voilà,
d'accord.
Tu t'es arrêté à la 2, ce qui est compréhensible. Mais après.
Tu continuais à chier dessus sans avoir vu les épisodes.
Voilà, ce que. Un petit peu honteux, hein.
T'es quand même le seul mec à avoir acheté les DVD, à avoir acheté 40€ par saison, à avoir chié dessus et à ne pas les avoir regardés.
Mais non, si, figurez-vous que voilà, coup de théâtre, Mathieu les a vus et finalement c'est pas mal.
En fait, j'ai regardé, je suis tombé sur des épisodes au pif comme ça, j'ai regardé.
C'est-à-dire
saison 4 au pif sur TMC, une chaîne magnifique, Télé Monte Carlo. Et du coup, je me suis mis à regarder Walking Dead, la série. Et en fait, je suis dedans, j'ai envie de regarder, mais pour différentes raisons. Je commence par les points négatifs, parce que bon, on peut dire que ça joue mal dans Walking Dead. Vous l'avez vu tous, la série de Walking Dead?
Oui, on a
juste la première saison.
Voilà, parce que j'avais fait comme ça, j'avais commencé la première saison, et ça m'avait saoulé, j'avais pas regardé, et là je me suis remis donc, au pif, et je continue, j'accroche parce que, malgré le fait que ça joue mal, je trouve qu'il y a des qualités de... Les zombies, par exemple. Les zombies sont incroyables dans Walking Dead. Les attaques de zombies. Il y avait une scène où il y a un zombie qui essaye de manger la femme de Rick à travers le pare-brise de la voiture. Ça, c'est génial.
Ouais, ouais. Elle m'a un peu marqué, cette scène.
Non, mais en fait, les scènes de zombies, les scènes de groupe, même s'ils jouent mal, il y a des scènes de groupe à 15 personnes. C'est du jamais vu. Vu qu'on fait de la web-série, je sais pas, mais comment ils font pour réunir 15 personnes en même temps? Les agendas des gens, quoi, ils sont payés. Il y a des scènes de groupe qui fonctionnent très très bien. Alors que.
C'est pas des comédiens qui avaient une grande carrière au cinéma avant, hein, non plus.
Ouais, peut-être c'est pour ça. Mais c'est peut-être pour ça, parce que franchement, ils en font tous des caisses, quoi. Entre Dale, Rick, Shane et tout, quoi. C'est scandaleux. Mais les scènes de groupe, les scènes de zombies, les scènes de. Les twists d'un coup, les scènes d'action, ça marche super bien, quoi. Et ça, j'avoue que j'étais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout.
Voilà, donc.
Alors sur la saison, ça me met plus en plus, et finalement, j'accroche grâce à ça. Et donc je continue, même si la ferme là c'est très long. Quand ils cherchent, quand ils cherchent la petite Sophia là, ça... tout ça pour la retrouver. Enfin, bref, donc du coup je continue. En plus, ce que j'ai lu le comics,
évidemment, je suis un vrai hipster.
Et donc il y a plein de trucs
la
en
série,
fait qu'il n'y a
la
pas.
La série c'est de la merde, hein.
Tu parles pas en même temps. Le
comics c'est carrément mieux que la série, hein.
Évidemment.
Et bah en fait. Ce que j'aime bien dans la série, c'est que c'est, je pensais que ça plus proche du comics, mais pas du tout en fait. C'est très très différent du comics. La moitié des persos principaux ne sont pas dans le comics. Daryl, Carol, le T-Bone.
Mais si, Carol est liée, mais c'est moins développé. Enfin,
c'est Andrea qui est Carol, il n'y a pas Carol dans les comics.
Putain, j'ai confondu Carol et Andrea. Pardon.
Andrea, ouais. Il apporte une touche en plus et. Dans le générique, on voit que c'est Robert Kirkman, donc Phil Bede aussi, qui donc cautionne et écrit même des scénarios d'épisodes. Il prend une autre. Finalement, ça marche de prendre une autre version de l'histoire, comme si c'était la même histoire, mais alternative. Et le meilleur perso, Daryl, n'est pas du tout dans le comic. Ça, c'est cool. Quoi.
Ah ouais. Je suis curieux.
Donc finalement, ça me plaît. En plus, la BO est plutôt pas mal. C'est le mec qui avait fait la BO de Battlestar Galactica. Qui s'appelle le Beer Macready, Ours Macready.
Il donne le ton.
La musique est cool. Par contre, bon, le héros principal, Rick, joue très très mal. Bon, si ça, mais ça passe quand même. On s'habitue.
Il était meilleur dans Love Actually.
Dans Love Actually.
Non. Putain. Il joue dans des films français aussi. Voilà, donc j'ai parlé de Walking Dead. L'arnaqueur. Ça c'est fait, dédicace. Je vous conseille de regarder. Alors je sais pas, vous avez suivi, il y a une nouvelle saison qui commence, c'est ça? Vous êtes à jour, les gars?
Non, moi j'ai pas vu la dernière.
Oui, moi j'ai tout vu.
Toi t'es à jour, hein. Mais alors t'aimes pas Walking Dead?
Moi j'aime beaucoup Walking Dead.
Ah bon?
Moi j'aime beaucoup.
Au niveau du jeu d'acteur?
Non, non, mais j'aime beaucoup parce que c'est une série qui tente plein de choses. Et à mon avis, parce qu'elle est un poil décriée. Parce qu'elle a beau avoir du succès cette série, elle a jamais eu du succès d'estime. Elle a beau passer sur la même chaîne,
quand même. Hein,
elle a beau passer sur la même chaîne que Breaking Bad ou Mad Men, elle a jamais.
C'est la série qui fait plus d'audience avec Game of Thrones.
Elle fait de l'audience, mais elle a pas de récompense, elle a pas de grandes critiques formidables comme ces autres séries d'AMC. Et je me dis que justement ils ont des couilles, ils tentent des choses. Justement dans les dernières saisons, ils ont fait des épisodes très très conceptuels, très très différents, où ils ont vraiment tenté des choses de mise en scène, d'écriture. Il y a vraiment des choses qui sont tentées. Alors, je le répète, surtout dans les dernières saisons, faut vraiment passer ces 2-3 premières saisons un peu.
On s'est tapé une trentaine d'épisodes avant.
Non, mais c'est ça qui est dommage.
Mais non, mais ça passe. Hein,
parce que la première est pas dingue, la deuxième est vraiment bien bien pourrie. Je me rappelle plus de l'autre.
Si, il y a 2-3 scènes sympas, la grande.
Voilà, mais moi, c'est dans les dernières saisons que. C'est pas. Justement, c'est pas dans les arches développées par les personnages, j'ai un peu rien à branler. Mais j'ai trouvé que parfois, ils ont fait des épisodes très, 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 très forts.
Est-ce que tu penses pas que c'est dû. Parce que c'est une série qui a eu 3 showrunners. Il y a eu 3 showrunners différents.
Là, c'est, oui.
En 6 saisons.
Oui, mais alors, du coup, et ça a
est-ce
aidé.
Est-ce que c'est pas lié à ça? Les mecs essayent de changer, se renouveler.
Oui, bah, justement, voilà, c'est ce que tu dis, le renouvellement.
Kirkman, le scénariste de la BD, est toujours là.
Moi, j'ai l'impression que c'est la série, alors peut-être à cause de ce changement d'équipe régulier, mais j'ai l'impression que c'est une série qui n'arrête pas de se renouveler, n'arrête pas de tenter de nouvelles choses. Et moi, c'est ça qui
tout me plaît, en suivant la trame des BD. Des
ouais. Mais je te rappelle, on peut suivre cette série en s'en foutant complètement de ses personnages. Ouais, les personnages n'ont pas trop.
Il meurt facilement.
Voilà, et c'est pas le plus important dans la série, je trouve. C'est tout l'univers qui
enfin, ça fait partie du succès quand même, ça, ou Game of Thrones, c'est-à-dire le fait qu'il y a un personnage important qui soit.
Ouais, c'est comme Game of Thrones, c'est chiant pendant 45 minutes. Enfin, et puis mais, la fin,
mais Rick, non, au niveau mais... charisme, il arrive pas à la cheville du nain, quoi.
Non, mais bien sûr, non, mais je sais pas.
Les acteurs dans Game of Thrones sont ouf, alors que là, dans Walking Dead, c'est de.
Ouais. Non, bien sûr, justement, mais pour revenir sur Walking Dead, ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, tu sais qu'il y en a un qui peut partir. La BD c'est beaucoup plus tu le sens beaucoup plus d'ailleurs, mais c'est
une BD, ça va beaucoup plus vite les événements, et du coup finalement on s'attache pas mal avec la série parce que dans la série il n'y a pas d'ellipse, ça aussi c'est un truc de fou, on voit tout en fait, les épisodes ils sont de bout à bout quoi, c'est directement la suite de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent.
Non, enfin
il y a quasiment pas d'ellipse, les ellipses se font entre les saisons mais se font pas au sein même de la saison, et ça c'est cool. Du coup les saisons se passent sur une dizaine de jours quoi.
Enfin du coup ils se calent, enfin,
pour l'instant
ils calent sur la structure de la BD, en fait tout est là quoi.
Ouais, ils se prennent des grosses libertés, des
intrigues, ouais, ils font des raccourcis, des trucs,
ils choisissent de garder le personnage de Shane qui est excellent, et ils le gardent plus longtemps dans la BD, et du coup c'est bien quoi.
Tout à fait,
même si Shane en fait des casse le Punisher.
Il est bien meilleur dans Punisher.
Ouais, en tant que Punisher, ouais, mais là, en fait, plus il devient méchant, il passe du côté obscur, puis il en fait des caisses, quoi. Il bouge la tête comme ça,
Tu le fais très bien, en tout cas.
C'est vrai, des fois, il se rase la tête en plus pour faire genre je suis méchant.
Comme Britney Spears.
Startman, est-ce que tu as. Avez-vous vu?
Alors, écoute, oui, tout à fait. Je comprends pas. Là, vous parlez de blockbusters américains, de séries à succès. Moi, je croyais qu'on était dans le podcast de la production indépendante, guérilla, tout ça.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc,
c'est
vrai. Je voulais vous parler d'une web série française complètement géniale. Alors, attention, qui n'est pas tout public, hein, qui s'appelle Mon pote Seb.
Ok.
Mon pote Seb.
J'ai pas.
Je vous l'avais envoyé il y a très longtemps. Mon pote Seb, c'est une web série qui suit. Alors c'est le style, c'est ultra connu maintenant, mais c'est du mockumentaire. Un mec qui se fait suivre caméra à l'épaule comme si c'était un documentaire ou un faux documentaire ou un reportage. The Office, le pendant féminin de The Office, Parks and Rec. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Là, je pense qu'à ces deux-là, parce que j'ai pas préparé.
Mais, le projet Blair Witch.
C'est plus du found footage. Ouais, on change un peu de style. C'est pas exactement la même chose. Donc là, le mockumentaire, c'est plus monté. C'est quand même monté.
Spinal Tap.
Mon 1. Hein,
The Spinal Tap.
Voilà, Spinal Tap, c'est du mockumentaire. Donc, mon pote Seb, ça suit les aventures de ce fameux Seb, qui est un mec assez impressionnant physiquement. Il a de la goule. Et,
petite précision, il a de la goule.
Si
tu peux expliquer l'expression.
C'est purement sartoise.
Pardon, enfin, vous connaissez pas l'expression
il a de la goule. Je suis désolé.
Il a de la gueule et des couilles.
Ce qui serait, oui, ça serait logique.
Il a de la gueule. Il parle. Il a de la tchatche, quoi. Enfin, je sais pas.
Ok, ça,
il a du bagou.
Du bagou. Hein. Chez nous, c'est bagou.
Je sais pas où vous avez été élevé, mais il a de la gueule, quoi. Donc, mon pote Seb, alors c'est, je sais pas comment, c'est un mec à part qui vit de petites arnaques, qui vit un peu dans son monde, dans le monde de Seb. Il observe une fille depuis les fourrés en face de la fenêtre de la fille et il est amoureux de cette fille. Et elle aussi est amoureuse de lui, forcément. Dans le monde de Seb, il embauche une femme de ménage, mais qu'il paye aussi pour faire l'amour avec lui. C'est un monde très très étrange. Borderline.
Okay.
C'est, je l'ai dit, c'est une web série à ne pas mettre sous tous les regards. C'est pas pour tous les regards, hein, je le répète. Tu couperas une des deux versions.
Et donc les publics, hein, c'est pas pour tout public.
C'est pas pour tout public. Je sais pas comment expliquer, c'est une très bonne web série.
Tu parles de quoi en fait ?
C'est trash. Ben, c'est ça, c'est le quotidien de Seb.
Mais qui est Seb? Il fait quoi?
On sait pas trop.
Qui est-il?
Mais il est bizarre. Non, mais... Je te dis, il est bizarre. Il a tous les défauts de la Terre et c'est plus ou moins un psychopathe.
D'accord. On trouve ça sur YouTube, du coup.
Alors voilà.
Il y a combien d'épisodes?
Et c'est très intéressant, c'est que on trouve une version sur YouTube. Et il faut savoir qu'avant c'était sur un autre site de streaming. Là, on parlait des libertés de l'OAPC. On fait ce qu'on veut sur l'OAPC. Dans la version première qui a été mise en ligne, par exemple, il y avait des nichons, des couilles. On voyait des couilles.
Je suis outré.
On voyait des couilles de Seb. Mais quand le réalisateur a décidé de mettre la série sur YouTube,
il a coupé ses
couilles.
Il a coupé ses couilles.
Il a plus ou moins coupé ses couilles vu qu'il a flouté les couilles de son comédien. Ce qui revient au même. Sur YouTube, il y a une version floutée. Donc c'est intéressant de voir que c'est de la web série, mais qui a voulu aussi à un moment donné essayer de toucher une certaine audience, donc il a décidé d'aller sur YouTube
bien sûr, mais je veux pas faire mon complotiste, mais t'as parlé du fait qu'il soit sur YouTube. Est-ce que là ça a été peut-être un truc un peu imposé où il y a eu
en plus il le dit, j'ai entendu un truc
peut arriver, hein,
et justement pour le coup je vais parler d'autre chose, je vais parler d'un podcast dans lequel le réal de cette web série intervenait. C'est le podcast de QG, il s'appelle le QG, les deux lettres, de la BKD Corp,
c'est dur à dire,
du Capitaine Brakmar. Voilà, il s'est lancé dans le podcast, mais il a fait que deux épisodes, enfin bref, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Mais dans ce podcast, il y avait le réal de mon pote Seb qui parlait et qui expliquait tout ça, qu'à un moment donné, ils avaient décidé de se mettre sur YouTube pour choper plus de gens. Mais du coup, comme en télé, comme en ciné, tu as des contraintes. Et il s'est dit, si je vais être sur YouTube, je ne peux pas avoir de couilles et de bites apparentes. Et donc, j'ai flouté tout ça.
Okay.
Mais bref, j'ai conscience que je parle extrêmement mal de ces web-séries parce que je l'ai résumé à des bites et des couilles.
N'oublie
pas que tu montes des films érotiques.
C'est de l'humour très noir, très trash. ça reste de l'humour pour moi, mais c'est de l'humour très dérangeant parfois. C'est des épisodes de 5-10 minutes maximum, donc ça se trouve sur YouTube, mon pote Seb, vous allez trouver, et c'est sans concession, ça va très loin. Voilà, c'est très malsain parfois, c'est dérangeant. Je pense que je parle bien de la série en disant que c'est dérangeant et malsain, mais que c'est bien.
Guillaume, un petit avez-vous vu
Gladiator?
Ah oui, surtout avec
Allez, redonnons sérieux, Guillaume, un petit avez-vous vu?
Avez-vous vu?
Ouais, alors un avez-vous vu, j'essaie de coller au thème. J'ai regardé un documentaire il y a deux jours qui s'appelle Chaos on the Bridge, Chaos sur le pont, qui date de 2014, qui est un documentaire qui parle de Star Trek The Next Generation, donc la deuxième série Star Trek, qui est sorti en 87-88 et qui met en avant un peu les conflits qu'il y a eu entre le showrunner et les scénaristes, entre scénaristes. Comment s'est construit cette série un peu dans le conflit entre la Paramount, entre Gene Roddenberry et toute son équipe de scénaristes. Et du coup, c'était super intéressant. C'est un documentaire qui fait une heure, qui est présenté comme tous les documentaires de Star Trek par Pepe Shatner. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est un truc qu'il faut regarder si on aime Star Trek ou même si on n'aime pas Star Trek. On apprend aussi que travailler, coécrire dans une série, c'est un travail d'équipe et que c'est pas toujours facile. C'est toujours pareil, c'est l'humain. Et juste pour la petite anecdote, c'est vrai que Roddenberry donc était
Gene Roddenberry, donc le créateur de Star Trek.
De Star Trek, ouais.
Star Trek, la série originale.
Faut savoir que la série originale qui est sortie en 68, il y a eu 3 saisons et elle a pas spécialement marché.
Non.
Donc en fait, ils ont arrêté assez rapidement. Ensuite, l'effet Star Wars a fait qu'on a ressorti Star Trek du panier.
Ils ont commencé par faire les films.
On a fait des films, mais où Roddenberry était que producteur exécutif. Donc en fait, il avait pas trop son mot à dire sur les scénarios. Et
parce qu'il était déjà assez âgé au moment du succès de Star Trek.
Il est mort à 70 ans, je crois.
Il est mort dans les années 80.
90, je crois.
Justement, pendant Next Gen, il y a des épisodes.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est après, ils expliquent que les scénaristes, ils se sont fait hyper plaisir après. Et en fait, ouais, du coup, il n'était pas sur les films, mais la Paramount l'a appelé en fin des années 80, quoi. 87, 86, je crois. Et ils lui ont dit, on aimerait refaire une série. Et lui, il a dit, ok, mais on va changer les personnages. Donc on va prendre, il n'en voulait pas au début, mais il a pris Patrick Stewart, quoi. Il a créé ses nouveaux personnages et surtout il était parti sur l'image qu'on lui avait donnée, c'est-à-dire l'utopiste, le visionnaire qui voulait un monde sans guerre, sans conflit. Du coup, c'était la ligne directrice qu'il donnait à ses scénaristes, c'était de dire « je veux pas de conflit, je veux un truc utopiste ». Donc les scénaristes, ils disaient mais mec, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire ». Enfin, du coup, les mecs essayaient de lutter, ils essayaient de remettre des trucs en cause et c'est vachement intéressant. En fait, c'est un documentaire, il est vraiment dynamique parce que…
Tu peux rappeler le nom, je suis en train de noter.
Chaos on the Bridge.
Chaos on the Bridge. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que il y a des petites scénettes où il y a les personnages qui sont dessinés en caricature, qui sont en train de jouer au poker. T'as le producteur de la Paramount, t'as Roddenberry, t'as son avocat, t'as les scénaristes. Et en fait, c'est comme une grande partie de poker.
Tu vas en parler, il était en procès avec une autre de ses scénaristes,
oui,
sa propre équipe.
C'est ça, de sa propre équipe. Parce qu'en fait, le pilote, donc il avait confié le pilote à une scénariste.
De Next Generation,
qui a fait un pilote de 45 minutes. Et la Paramount lui a dit, un peu au dernier moment, genre 2 semaines avant, finalement, on veut un pilote d'une heure et demie. Et donc, sa scénariste, je lui ai dit, attends, je suis incapable, moi, une heure et demie, je peux pas, quoi. Et Roddenberry, il dit, ok, Phil, j'écris. Et hop, il s'est tapé, il a écrit donc 45 minutes supplémentaires. Il a fait plein d'ajouts, notamment Q, je sais pas si vous connaissez un peu la série. Et en fait, après, il a dit,
Q, qui est un personnage qui revient.
Et qui est superbement exploité par la suite. Et du coup, là, il a dit, c'est moi qui l'écris. Et la scénariste a dit, attends, non, j'en ai écrit la moitié. Enfin, du coup, tu vois, ça, il s'était attribué un peu le mérite et ça a fini en procès, quoi. Alors qu'ils continuaient à bosser ensemble, etc. Quoi.
Et alors, juste parce que tu parlais de la partie de poker, justement, la partie de poker est un des codes de la série. L'équipage se retrouve régulièrement à jouer au poker ensemble. D'ailleurs, le final, sans rien spoiler, voilà. Ouais. Le final, c'est une partie de poker. Enfin, voilà, la partie de poker au sein de cette Enterprise, de cette série Star Trek Next Gen, c'est un des codes de la série. C'est pour ça que la caricature que tu cites avait encore plus de sens.
C'est vrai, ouais, j'avais carrément pas fait le rapprochement.
Si, si.
D'accord.
Et on apprend des choses en plus.
Ouais.
C'est sympa.
En plus, mais allez le voir parce que c'est intéressant vraiment.
Mais moi j'ai trop de j'ai noté là, j'ai trop d'aller voir ça. Et, ça je trouve ça rigolo que tu parles de ça parce que moi quand je il y a pas longtemps en fait, il y a pas longtemps que je me suis fait tous les Star Trek Next Gen, que j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça très très cool. Enfin, c'était une série de network, 20 épisodes par saison et tout, il y a à voir et à manger, il y a vraiment de tout, mais il y a des trucs formidables dans cette série. Et moi je me faisais la réflexion à chaque début d'épisode, je regardais donc les crédits et tout, je voyais des noms parfois intéressants, Ronald Dimour, le créateur de Battlestar Galactica, a fait ses armes sur Star Trek Next Gen, et souvent tu voyais écrit par screenplay. Et l'écran était littéralement envahi de noms. Parfois, il y avait 4-5 noms de scénaristes au moment où, alors, vous voyez, dans les génériques, dans les crédits au début, réalisé par, avec un producteur, machin. Et au moment où tu arrivais à écrit par, tu avais parfois, je vous dis, 4 ou 5 noms et ça prenait tout le cadre, tous les noms de ces mecs. Et je me suis dit, mais ça devait être un bordel, l'écriture de cette série. Soit les mecs n'étaient pas d'accord, soit ils se refilaient les scripts. Et donc, un type qui rajoute deux phrases va avoir droit à son nom.
Mais non, en fait, ce qui est intéressant, ils expliquent vraiment que t'as Roddenberry qui, au début, donc, garde le Graal, c'est-à-dire son idée de la série. Ensuite, il confie le Graal à un mec qui, au début, n'était pas d'accord avec Roddenberry et qui, du coup, se colle un peu sur ce qu'il voulait, et alors qu'il s'opposait à Roddenberry au début. Et après, les scénaristes de ce mec-là vont s'opposer à lui, vont le foutre à la porte à la fin de la troisième saison et vont prendre les choses en main. Et c'est super intéressant. Et ça montre que même à Hollywood, c'est compliqué.
Bah, bien sûr.
Même quand tu as du budget, c'est compliqué, quoi. Et ça apprend que l'écriture, c'est pas simple. Et j'en profite, un autre, avez-vous vu Rien que pour toi, Sartman? Parce que ça concerne aussi Star Trek, il y a The Captain qui est super intéressant, qui est présenté aussi par William Shatner. Shatner qui va rencontrer chaque capitaine qui a
des autres séries.
Des autres séries.
C'est bon, donc ça. Scott Bakula.
Oui, Scott Bakula. c'est énorme parce que dans ce documentaire, Scott Bakula parle avec William Shatner et il parle de leur divorce. Parce que Star Trek, ça entraînait leur... Parce que ces mecs-là, ils passaient 15-16 heures sur un plateau de...
Ils vivaient
Star Trek. En plus, dans le même décor, quoi. Et en fait, les
gars... Shatner, c'était un show aussi, hein. Il faisait pas que travailler la journée.
Les maquilleuses, ils aimaient bien, quoi.
Oui. Bah, il en parle aussi un petit peu. Et du coup, voilà. En fait, ils expliquent qu'est-ce que ça a provoqué. Et Bakula revient sur Code Quantum en disant que c'est ce qui a causé son divorce, etc.
Ah oui.
Et donc il va rencontrer chaque capitaine de vaisseau de chaque série Star Trek, y compris Chris Pine qui joue son propre
dans les films
et c'est vachement intéressant, de
Jean-Jacques.
Il y a une scène très émouvante, c'est l'interview que Shatner fait de Patrick Stewart, où Shatner se confie un peu sur, parce qu'on le savait, il était un peu comme ça, il a un ego, où il lui dit, voilà, moi j'ai toujours été un peu jaloux parce que toi t'étais l'acteur de théâtre, t'étais l'acteur qui a fait Shakespeare. Et en fait, ce qui me touche beaucoup, Patrick, c'est que en fait, t'as l'air d'être vachement fier de ce rôle-là, quoi. Alors que moi, je l'ai subi comme un fardeau. Et le fait que toi, t'arrives à en être fier, toi qui as fait tout ça avant, ben moi, je me dis, putain, j'en suis fier, quoi. Enfin, et du coup, ouais, il y a des échanges vachement émouvants comme ça. Et c'est un très bon documentaire aussi.
Il y a combien d'épisodes de Next Generation?
Il y a combien de saisons? Il y a
7 ou 7 saisons, je crois.
Et c'est une vingtaine d'épisodes.
Patrick Stewart, il jouait le Capitaine Picard.
Mais c'est ça qui est surpuissant dans Star Trek, c'est que, comme tu l'as rappelé, la série originale n'a eu que 3 saisons. Et pourtant, c'est ce qui reste dans le mythe et tout. Next Gen a eu beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus de saisons. Et on a tendance à moins s'en rappeler. C'est vrai que Shatner marque les esprits.
Spock,
Shatner et Spock. Ce duo marque les esprits. C'est pour ça que quand ils ont rebooté Star Trek, tu en as parlé avec les films de Jean-Jacques Abrams, ils n'ont pas rebooté Next Gen, ils ont rebooté Spock et Kirk. Ouais.
Et il y a une nouvelle série qui sort là bientôt.
Et il va encore avoir une nouvelle série.
Qui est écrite par Brian Fuller, qui a fait Hannibal d'ailleurs.
Voilà, Star Trek, super univers aussi. Moi, je m'y suis mis il y a pas longtemps, j'étais un vrai fan de Star Wars, je ne connaissais rien à l'univers Star Trek, et super univers à découvrir.
Le premier épisode de Star Trek, avec, il n'y a même pas Kirk,
c'est avec un autre
Pike,
Kirk, quoi.
Mais le scénar, il est juste énorme, quoi. Enfin, à la fin, moi, j'étais sur le cul.
D'ailleurs, ils le reprennent malgré tout avec plus tard dans la saison.
Ouais.
Ou dans saison 2, je sais plus comment ils font.
Je suis en train de me les refaire, j'en suis
et
pas
ben,
là.
Et ben, ils reprennent cet épisode en l'intégrant à l'histoire, mais par une pirouette scénaristique complètement folle, en fait. Ce premier épisode pilote dans lequel il n'y a pas Kirk, mais il y a Spock, il y a plein d'autres.
Spock avec des gros sourcils.
Il y a tous les autres personnages, sauf Kirk. Et ben, ils le reprennent, ils font une pirouette pour le réintégrer. Enfin, c'est formidable. C'est là aussi une histoire de contraintes et de budget. Ça leur permet de faire un épisode à pas cher parce qu'ils récupèrent des scènes du épisode pilote. Et c'est fascinant à voir. Tu vas le voir bientôt, c'est en saison 1 ou 2, je pense.
Bah, du coup, voilà. Si vous voulez être un bon scénario, il faut aller regarder des trucs.
Bonne série.
Ouais, des bonnes séries, quoi.
Espace. Frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges. Découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible.
Ouais, non, parce que Star Trek, la série originale, a eu ses films, ils en ont fait 5 ou 6.
Ouais.
Et après, il y a.
On parlait dans le micro pour parler.
Non, mais j'ai plus sur ce point depuis tout à l'heure.
Non, je viens de relancer.
Et après, Next Gen,
le bonus Star Trek.
Next Gen a fait ses propres films. Ils en ont fait 2 ou 3.
Et le premier film, c'est un passage de relais.
C'est... Alors, c'est le 8e film de la saga Star Trek.
C'est le 8e, je crois.
Ah oui, c'est,
7e,
c'est à partir du 8e. D'accord.
Mais le podcast parle pas de.
Mais c'est bonus Star Trek là.
Bah oui, mais.
Bonus
j'avais prévu
non,
un autre bonus.
Mais juste voilà pour dire que.
Bon, enfin, autre bonus,
les deux persos ils se voient dans une cuisine quoi. Putain, te rends compte que la rencontre se fait dans un chalet dans une cuisine. Putain, alors.
Il y a vraiment pas de
c'est ce moment il est super émouvant, ouais, mais j'avoue.
Alors, Picard et Kirk.
Mais ouais.
Mais Kirk il est méga vieux. C'est l'époque où Kirk.
Oui, c'est l'époque où Kirk. Mais Kirk, il est gros depuis les débuts des premiers films de Star
ouais,
Trek.
C'est vrai.
Ben, Khan
ah, mais... Putain. Tu te moques du capitaine Kirk. Donc.
Comment oses-tu
okay. Non, bah, bon non, moment
si,
Star Trek.
Si, alors, si, le moment Star Trek est terminé, on peut peut-être enchaîner sur une autre question qui me brûle les lèvres.
Qui me taraude.
L'avenir du cinéma est-il, selon vous, à la télé, finalement? Dans les séries télé.
Ouais, depuis longtemps. Hein.
Depuis, développe un petit peu, s'il te plaît.
Bah, je sais pas, non, depuis que c'est à la mode les séries télé, donc depuis 10 ans.
Bah, je comprends pas cette question en fait, c'est deux choses.
Ouais, c'est un peu trop. Trop large peut-être, je sais pas.
C'est deux formats différents, donc l'un peut pas être l'avenir de l'autre, c'est, les deux vont coexister.
Ouais,
non,
maintenant il y a des réalisateurs de cinéma qui viennent faire des trucs à la télé, alors qu'avant c'était pas le
oui,
cas.
Oui, mais est-ce que le mode de diffusion télé influence finalement la consommation du cinéma?
Bah. Non. Ça dépend si tu penses à Marvel, ouais, parce que t'as l'impression d'aller voir des épisodes de séries, mais...
Bah, je pense à Marvel parce qu'il
y a des... Sinon, ça dépend des films, il y a des... certains qui aiment le film d'auteur français, te dire le contraire. Il y a des films indépendants.
D'accord, non, mais je pensais qu'on allait...
Qui ne sont pas des séries.
Qui ne sont pas des séries.
D'accord, ok, non, mais pas plus... Bah, du coup, non, mais la question n'a pas lieu là, je pensais que ça allait plus susciter le débat,
Parce que je comprends pas, en fait...
Quelle est ta théorie, toi,
Jean-Marc? J'en ai pas, moi, je pose une question, j'ai peut-être une espèce d'appréhension que ça...
Certaines séries sont mieux réalisées que certains films, ça, c'est clair.
Voilà, dans quelle mesure la série influence le cinéma, et vice-versa?
Bah, déjà, t'as des acteurs oscarisés... Comme dans Trop Détectives qui viennent. Et en fait, les saisons sont en soi des histoires qui suffisent à elles-mêmes. Donc on est en gros sur des films découpés en mini-séries, quoi, ouais. En saison. Après, c'est vrai que Marvel, de l'autre côté, prend le modèle des séries télé pour écrire ses films et pour imbriquer des séries qu'ils sont en train de créer aussi. À la fois les Defenders avec les séries Netflix, mais aussi... Les séries Marvel qui font sur les chaînes américaines.
ABC. Agent of Shield.
Tout ça devient un peu compliqué quand même à suivre, quoi. Quand tu regardes Captain America 2, tu comprends rien, quoi. Donc je sais pas si c'est l'avenir, en tout cas c'est beaucoup moins scindé qu'il y a 10-15 ans, quoi. Ça c'est certain, quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup on m'en a beaucoup parlé, mais Firefly. Ça s'est fini en film.
Alors c'est pas... Ouais.
Donc,
il a fait un téléfilm de faute de, mais indépendant.
Faute de mieux.
Ouais, il aurait préféré faire une série complète.
Star Trek, pour revenir au sujet d'avant, je veux dire, t'as une série de films. À la fin, la Star Trek, c'est, en fait, ils ont fait.
C'est une série de films, ils ont une série tout court.
Ouais, mais ils ont fait une. En gros, il y avait un film. Je veux dire, à la fin d'un film, t'as quand même Spock qui meurt. Donc ils finissent sur une fin.
Oui, les films sont dans la continuité de la série. Bah, comme X-Files même... à la bonne époque.
Bah ouais, mais t'as quand même 7 films, donc ça veut dire qu'il y a. C'est comme une série, quoi.
Ça a mieux marché qu'ils.
C'est une série de 7 films. Donc il y a.
Tu peux te limiter d'ailleurs, est-ce que si tu regardes les 7 films Star Trek et pas les séries, tu peux.
Ouais, moi j'ai commencé que par les films. Ouais, j'ai commencé que par les films, moi. Mais d'ailleurs, tu peux commencer par le reboot. Je trouve que enfin le reboot de Gigi, ouais. Je pense que il est bien pour amorcer la passion Star Trek, quoi. Il est pas mal.
Ok.
Mais du coup, enfin comme si on est comme moi, c'est-à-dire pas trekkiste du tout. Par quelle branche on saisit l'arbre Star Trek pour le coup? Parce que là, tu dis que voilà, prendre cette porte d'entrée, ça serait un bon début pour entrer dans l'univers. Mais finalement, est-ce qu'il, enfin, il a une origine
Je pense que c'est la richesse des, enfin l'avantage des séries de cette époque-là. Et vous me démentirez, c'est que je pense que tu peux regarder n'importe quel épisode de n'importe quelle série. Globalement, tu as une histoire qui se tient en un épisode, si t'aimes la SF.
Tu penses à MacGyver, par exemple.
Ouais, mais non, mais même Star Trek.
Ouais, toutes les séries Star Trek fonctionnent comme ça, enfin, comme toutes les bonnes séries de SF.
Tout est une porte d'entrée, quoi.
C'est ça.
Tu
prends un thème, tu le mets à la sauce SF dans l'Enterprise, tout ça, et voilà, et t'as ton épisode.
C'était facile d'écrire un épisode de Star Trek.
C'est facile de le regarder, par contre.
Par contre, il y a un phénomène intéressant, c'est que c'est casse-gueule d'adapter une série en film au cinéma. Généralement, ça se loupe. Alors qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de films qui sont déclinés en série.
C'est vrai.
Ça devient de plus en plus.
Il y a moins de risques.
L'arme fatale aussi, cette année.
Il y a moins de risques, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi contre les vampires. Possibilité de développer l'arme fatale, ça arrive. Ça arrive en série. Il y a une possibilité de développer l'histoire qui est.
Enquêtes.
À chaque fois, je m'interromps, mais il y a l'armée des 12 singes aussi qui est sortie en série.
Ça, j'ai pas regardé, mais.
En fait, tu vois, le cinéma arrive à la télé avec les franchises qui ont passionné les foules.
Justement, enfin.
Et qui sont.
Là, on dirait que c'est la porte est ouverte, ça y est, on y va. Il y avait Branded, je crois, récemment, t'avais envoyé ça et je sais plus qui y avait envoyé
un film. Ça n'a rien à voir avec le film.
Rien à voir avec. D'accord, bon, bah, tu me rassures.
Oui.
Je pense que l'avenir.
J'ai pas vu le film.
Non, en fait, c'est le passé du ciné qui est dans la télé. En fait, c'est pas l'avenir du ciné qui est à la télé, c'est le passé. Parce qu'en fait, on reprend toutes les bonnes vieilles franchises qui ont fonctionné et on les met à la télé, quoi. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, en fait.
Ouais, plutôt que de faire chier à refaire un film, un remake, on se dit, bah, la télé, ça passe. Game of Thrones et c'est bon, quoi.
Twelve Monkeys, c'est pire. Les acteurs, c'est pire que Walking Dead, quoi. Enfin, ouais. tu saignes du nez, quoi. Tu fais une hémorragie quand tu. Moi, je suis allé au bout de la saison 1, mais.
Ah oui.
Mais c'est voilà, c'est pas Terry Gilliam, quoi.
Non. Ok. Bah ouais, c'est Brad Pitt et Bruce Willis, c'est un peu un autre niveau. Ok.
En effet, Surfman, un petit ajout sur ce qui a été dit.
Sur quoi?
Sur tout ça, un petit récap.
Fais-nous un résumé de l'émission, ça.
On va te laisser le micro.
Comme à la bonne époque de Ça se discute, où il y avait un psy dans le public qui devait résumer l'émission. Oui, je pense que les enfants violés, c'est pas cool.
Moi, je pense, à travers ce qu'a dit Mathieu, je pense qu'il vote à gauche.
Guillaume est clairement de droite, extrême droite, hein, il a dit beaucoup le mot
Marie. Un pervers narcissique.
Sans parler des présentateurs, vous êtes complètement cocaïné.
Oui, il faut faire consulter contre toutes ces addictions aux différents produits
effectivement,
dopants et que vous avez pris.
Ça sera sujet d'un prochain podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Laissez-nous des commentaires pour agrémenter tout ça.
C'est un bonus, là.
Ouais, c'est la fin du bonus. C'était un bonus très court. Peut-être
moi en bonus, on m'avait parlé d'Anna Paulina.
Ah oui.
Alors ça, c'est le bonus, il faut vraiment payer quoi maintenant. C'est le bonus spécial VIC.
C'était pour te faire venir. Mais VIC, bisous à la peur du capitaine du coup. Et voilà, bah écoutez, les gars, les filles qui écoutaient, on vous fait des gros bisous et puis on espère une prochaine fois, parce qu'une fois que ce sera monté, est-ce que je vais continuer cette histoire?
On ne sait pas.
Je sais pas, nous verrons. Mais en tout cas, merci à vous, c'était très cool. J'espère qu'on en fera d'autres. À la prochaine.
Tchuss. Ciao.